Bonjour, shalom, assalam alaikum. Nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes en place pour écouter le Club La Presse, pour vibrer avec nous sur les ondes de Canal FM, la nouvelle génération qui couvre le Lomé ses environs, mais également par le biais des médias partenaires, Radio Lumière à Nero, au sud-est du Togo, Radio La Paix, la voix des plateaux à Takpamé, comme son nom l'indique, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Radio Sama FM à Baga Niamtougou, Radio Courtoisie à Dapaon, tout le Togo est couvert, c'est pas fini. Nous débordons en Afrique et dans le reste du monde par le biais des radios numériques, Radio Gameli, Ebon Radio ou encore les applications de Canal FM. Vous pouvez même nous regarder sur la chaîne YouTube. C'est vous toutes et vous tous que nous saluons. La complicité technique de Ete Thomas Datevi qui va être rejoint incessamment par Jérôme Kodjo Akucha. Cette émission, nous l'animons en pensée avec vous qui nous écoutez à Lomé un peu partout au Togo. Sûrement que cette pluie qui arrose le studio de Canal FM et Hanoukopé arrive chez vous aussi un peu partout au Togo. Et je présume qu'il n'y a pas trop de dégâts. Et alors que quand nous nous transportons en Libye, hein, c'est la désolation suite à la tempête Daniel dans la région de Derna, avec de violentes inondations qui ont dévasté l'est de la Libye. On avance hein, le chiffre de moins 2000 morts et jusqu'à 10 000 disparus, soit suite à cette tempête tropicale. Comparaison n'est pas raison, mais quand on voit ce qui se passe en Libye, on peut s'estimer que Dieu est un peu clément avec nous au Togo. D'autant plus que le Maroc n'est pas mieux loti. Le Maroc qui porte encore le deuil de ces 3000 morts et des gens encore qui restent à découvrir suite à ce séisme qui a secoué la région de Marrakech et le Haut Atlas marocain. Pour dire que la déréglementation ou le dérèglement climatique avec les caprices du temps, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité dont nous devrons nous rendre compte. Cette émission du Club La Presse que nous animons ce mardi 12 septembre 2023 à l'occasion de la journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud. Et justement à propos de coopération Sud-Sud, il va s'ouvrir incessamment, ce sera le lundi 18 septembre à Lomé, un salon qui va porter sur la valorisation des résultats des recherches et de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Le sujet nous intéresse pour vous et nous allons en parler aujourd'hui avec un invité qui est l'un des membres du comité d'organisation, professeur Kossi Adjonou. Bonjour professeur.
Bonjour monsieur Sass.
Vous allez bien?
Oui, très bien.
Vous m'avez confié que votre spécialité c'est un peu le climat, la végétation, l'écologie.
Je suis effectivement enseignant-chercheur et domaine de spécialité c'est écologie forestière. Donc la question d'écologie et de la foresterie concerne un peu les mesures qu'il faut et les solutions qu'il faut apporter aujourd'hui pour les aspects liés à la mitigation et des effets liés aux situations des changements climatiques qu'on est en train d'observer aujourd'hui. On peut même aller plus loin à travers la proposition des mesures d'adaptation également, que ce soit en matière de plantation de la forêt, en matière d'aménagement de la forêt, en matière de conseils ou bien d'espèces forestières à planter pour qu'on puisse s'adapter au mieux au nouveau contexte climatique qu'on est en train de vivre.
Je ne vais pas prêcher à un converti comme vous, professeur. Vous savez que le Togo lance cet ambitieux programme de reboisement, planté jusqu'à 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Et pour cette année 2023, la campagne de reboisement suit toujours son cours, d'autant plus que les pluies, nous en avons. Au sud du Togo, c'est la petite saison, mais qui est encore très bien arrosée. Au nord également, on apprend que de fortes pluies arrosent le Togo. Ça veut dire que nous devons nous saisir de cette pluviométrie abondante pour matérialiser cet ambitieux programme du gouvernement.
Effectivement, le programme du gouvernement, c'est un programme vraiment ambitieux que nous apprécions beaucoup et pour nous, surtout ce qui nous concerne, qu'est-ce qu'il faut apporter pour accompagner justement le gouvernement pour la réussite de ce programme-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on dit de faire le reboisement. Oui. Qu'est-ce qu'il faut planter? Où est-ce qu'il faut le planter? Quand est-ce qu'il faut le planter? Après avoir planté, quel entretien il faut apporter? Voilà un peu les éléments sur lesquels nous on intervient en matière d'écologie forestière dont j'ai parlé tout de suite.
Sûrement que vous menez des recherches, hein, vous nous direz, notamment dans le sens du salon qui va s'ouvrir incessamment, mm-hmm. comment on peut booster la recherche et surtout faire en sorte que des chercheurs qui y trouvent, on en trouve aussi mm-hmm. avec des expériences mm-hmm. réelles sur le terrain. Mm-hmm. Mais au menu du Club de la Presse, nous savons qu'au Togo, la grosse actualité du moment, c'est la recomposition du gouvernement intervenue le week-end dernier. Les journaux reviennent là-dessus. Nous-mêmes, chacun, dans nos conversations, nous allons en parler. Et nous allons aborder le sujet avec les confrères journalistes qui vont nous rejoindre incessamment. Également, dans les sports, c'est les éperviers, hein, hommes et dames, les équipes nationales du Togo, hommes et dames, qui ont joué le week-end dernier avec des fortunes diverses. Nous l'avions annoncé vendredi, nous y revenons également. Et puis avec cette rentrée diplomatique qui a été opérée hier, l'ancien Premier ministre Kokou Joseph Kofigo, qui a délivré une communication sur laquelle ont porté les débats. Voilà le menu et il faut annoncer le sport pour voir comme là, et que nous préférons appeler sous le pseudonyme Aimé Le Bon, nous rejoindre. Aimé, bonjour.
Oui, bonjour, Sass, bonjour, cher invité, auditeur et auditrice, bonjour.
Tu m'as l'air de te porter très bien là.
Ben, comme d'habitude,
avec je me porte toujours très bien. Avec ta barbichette qui te confère un air de sagesse.
Ah oui, sûrement que je suis sage.
Ah bien, quand on est sage, il y a certaines choses qu'on ne fait plus, Aimé.
Vous voulez dire que tu fais quelque chose que je ne devrais pas?
Ce que tu faisais avant, maintenant que tu donnes l'impression d'être un sage.
Bon, dans tous les cas, on le fait ensemble, donc il n'y a pas de problème.
Ah, tu parles à un innocent, Aimé. Merci, le temps de que un autre confrère nous rejoigne. Nous pouvons aborder ce salon. Ce sera la première édition du genre du salon qui va porter sur la valorisation des résultats de recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Professeur Adjonou, rebonjour.
Rebonjour, monsieur Sass.
Alors, dites-nous, pourquoi un tel salon qui va s'ouvrir incessamment dans notre capitale à Lomé ici?
Ok, merci beaucoup, monsieur Sass et chers auditeurs et auditrices de Radio-Canal FM. Je crois que l'occasion que vous nous donnez ce matin constitue une importante opportunité pour expliquer un peu un certain nombre de choses, parce que j'avais bien entendu la phrase que vous avez prononcée tout à l'heure et qui est de règle: les chercheurs qui cherchent, on en trouve, les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Ça fait rigoler un peu, mais le problème est sérieux. Pourquoi les gens ont l'habitude de dire ça? C'est que on dit, il y a des gens qui portent le thème, le titre chercheur, mais la question qui se pose, qu'est-ce que les gens trouvent au juste?
Dans
leur recherche. Justement, les gens trouvent beaucoup, mais seulement ce qui se passe, c'est que les gens trouvent, ils sont dans leur milieu, ils continuent pas à chercher sur différentes thématiques qui préoccupent la société, qui préoccupent le secteur privé, qui préoccupent les pouvoirs publics, mais les recherches sont restées là où on est en train de les chercher.
Dans leur laboratoire.
Dans leur laboratoire. Alors, on est en train d'observer une barrière, un mur qui sépare le monde de la recherche et les acteurs qui doivent en principe mettre en application tout ce qui est résultat de recherche et de l'innovation. Donc vous allez constater, les chercheurs qui sont dans leur monde, les acteurs du développement, du monde socio-économique, les acteurs du secteur privé, qui sont eux dans leur monde, qui ont des problèmes, qui sont en train de chercher des solutions, alors que certaines des solutions sont déjà disponibles au niveau du monde de la recherche. Mmh. Un exemple terre à terre qu'on donne aux gens, c'est, vous allez voir, il y a des entreprises qui sont installées au Togo ici, qui ont des problèmes de pièces qu'on peut régler facilement avec nos étudiants à l'université, même pas avec les chercheurs, hein. Avec les étudiants en première, deuxième année à l'université de Lomé, on peut régler facilement ces problèmes. Même parfois, ils sont obligés d'aller chercher des experts qui viennent de l'Europe. Ces experts vont arriver, il y a honoraires à payer, il y a billets d'avion à payer, il y a séjour de l'hôtel à payer, qui parfois même leur recommandent des solutions qui ne sont pas adaptées aux conditions qui prévaut à notre condition au niveau pays, mmh. ici. Donc, pour nous, ce salon, c'est d'ouvrir les institutions de recherche aux acteurs de développement pour qu'à un moment donné, les gens arrivent à se parler. Les gens qui ont des problèmes arrivent à exposer les problèmes qu'ils ont aux gens qui sont censés chercher des solutions. Et les gens qui ont des solutions aussi arrivent à présenter les solutions qu'ils ont trouvées pour voir dans quel domaine on peut les appliquer. C'est surtout ça qui fait que on est à un moment donné, le monde de la recherche s'interroge quelle est l'applicabilité ou bien quel est le seuil d'application des résultats des recherches qui sont trouvées.
Je rappelle que le salon va débattre, va porter sur la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique, et sûrement vous attendez des résultats concrètement à l'issue de ce salon, professeur.
Bien sûr. Ce qu'on attend le mieux, vous allez voir aussi un autre problème qui se pose, c'est que le monde de la recherche se plaint souvent du financement. Le financement est très très faible, on demande des résultats, mais qu'est-ce que les États mettent dans le domaine de la recherche pour qu'on ait des résultats? Si on fait un peu l'analyse, vous allez voir, les pays francophones ici, c'est à peine que les pays se situent autour de 0,22%, 23%, 25%, 0,3% au mieux pour les pays qui mettent 0,3% du PIB pour le domaine de la recherche. Alors que les recommandations de l'Union africaine demandent que au moins 1% du PIB de chaque pays soit investi dans le domaine de la recherche. Les gens n'investissent pas parce que la recherche ne constitue pas une priorité pour eux. Dans certains pays au niveau européen, les gens vont même jusqu'à, vous allez trouver des pays qui vont jusqu'à 1,6, 1,8% du PIB qui est investi dans la recherche. Donc, ce salon-là, ce qu'on attend, c'est que les acteurs puissent discuter entre eux pour qu'on puisse avoir discuté des opportunités de financement et comment faire pour rehausser un peu l'investissement que les pouvoirs publics et surtout les acteurs privés font dans le domaine de la recherche. Parce que nous, on a eu à rencontrer certains acteurs du secteur privé. Les gens nous ont dit, oui, nous avons les moyens, on veut investir, mais on investit sur quoi et à qui on donne le truc. Donc, on se rend compte que le gap qui existe entre les institutions de recherche et les acteurs du développement pénalise aussi le financement.
Alors, juste là, cela nous amène à vous demander quels sont les participants à ce salon.
Exactement. Pour ce salon, nous attendons plusieurs catégories d'acteurs. D'abord, les acteurs du monde de la recherche et de l'innovation. Ensuite, les acteurs du secteur public et du secteur privé, surtout les acteurs du secteur privé, puisque c'est surtout eux, si sans se tromper, la création de la richesse se fait beaucoup avec les acteurs du secteur privé. Donc, apporter des solutions aux acteurs du secteur privé permet d'accroître la création d'emplois et, par ricochet, la réduction de la pauvreté. Donc, les acteurs du secteur privé sont attendus. Nous attendons également les acteurs de la société civile. Et les questions de décentralisation aujourd'hui aussi seront abordées. Donc, les collectivités locales et toutes les autres catégories d'acteurs. Et
je devine, professeur, que l'agenda du salon doit être bien fourni.
Bien sûr. C'est prévu pour 3 jours. C'est suffisamment chargé avec beaucoup d'activités. Et je peux avancer sur les activités qui sont programmées. Nous aurons des panels. Donc, 2 catégories de panels, dont un panel de très très haut niveau, avec un panel présidentiel, c'est comme ça que c'est appelé. Ensuite, un panel ministériel, avec les ministres de 7 pays. Qui sont attendus. Les ministres de l'enseignement supérieur et de l'innovation de 7 pays qui sont attendus. Ensuite, nous attendons les innovateurs aussi. Donc, à l'endroit de ces innovateurs-là, on va organiser des masterclass pour pouvoir les former un peu sur... Vous savez, quand on parle de la question d'innovation, il y a la question de protection, de propriété intellectuelle derrière. Il faut que, quand quelqu'un détient une innovation, il sache comment protéger son innovation. Donc, il y aura des masterclass qui va présenter un peu aux innovateurs qui seront là, quelles sont les dispositions, que ce soit réglementaires ou bien opérationnelles, qui leur permettent de protéger leurs innovations. En plus de ça, on aura des expositions. Les expositions des innovateurs de 4 pays, le Togo, le Burkina Faso, le Sénégal et le Bénin. Exposition. Ensuite, un challenge entre les innovateurs de manière à primer la meilleure innovation par un jury international qui sera installé.
Merci. Des panels, dont celui qui va porter sur le partenariat public-privé, qui est intitulé « Quel partenariat public-privé pour la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest ?» Dites-nous, professeur, Qu'est-ce qui est attendu de ce panel entre vous, chercheurs et innovateurs, quand on se rappelle qu'il y a quelques jours, il y a juste une semaine, le 5 septembre dernier, le Togo organisait une grande rencontre sur le même thème, partenariat public-privé.
Exactement, merci beaucoup. Ce panel, partenariat public-privé qui sera organisé dans le cadre de ce salon sera exclusivement consacré à l'analyse des opportunités et des programmes de financement liés à la valorisation de la recherche et de l'innovation. Contrairement au partenariat public-privé qui a été organisé en septembre, au début du mois de septembre, qui s'est un peu focalisé sur l'ensemble des opportunités qui permettront de renforcer les liens et la collaboration entre les acteurs du secteur public et du secteur privé. Ici, la particularité, c'est que ça va concerner surtout les mécanismes à mettre en place pour renforcer la collaboration entre les acteurs de la recherche de l'innovation et puis les acteurs du secteur public et du secteur
privé. Merci. J'ai regardé vos fiches. Je tombe sur ce concours de la meilleure innovation en Afrique de l'Ouest. Quelle sera la particularité de ce concours dans l'écosystème des nombreux concours sur l'innovation auxquels nous assistons déjà dans notre pays?
Alors, pour ce concours particulièrement, d'abord, ça va permettre de confronter les innovateurs de quatre pays que j'ai cités tout de suite. Donc, ça va au-delà du cadre des concours d'innovation organisés à l'échelle nationale. Donc, c'est un concours international qui regroupe les innovateurs des quatre pays. Et ça va permettre aussi de mettre en exergue quelles peuvent être les solutions innovantes que les acteurs au niveau de l'Afrique de l'Ouest peuvent apporter. Donc l'idée, c'est de chercher à primer les meilleurs innovateurs et, partant de cela, encourager même l'esprit de créativité, l'esprit d'innovation qui est observé à travers différents pays de l'Afrique de l'Ouest.
Merci, professeur Kossi Adjonou. Vous nous rappelez les dates de tenue de ce salon. Alors, et quelques contacts utiles.
Merci beaucoup. Pour le salon, se tiendra sur trois jours, 18, 19 et 20 septembre. Le lieu, c'est au CETEF, Togo 2000, si je ne me trompe pas. Oui, c'est le site des foires et expositions de Togo 2000 à Idranawe, non loin de l'aéroport là-bas. Les contacts utiles, nous avons un site web qui c'est www.savari.net. Savari, c'est SAVARII.net. Et les numéros de téléphone, c'est 90 24 43 01 et 90 06 88 83. Et nous avons également une adresse email. C'est info@savari.net.
Merci à vous, professeur Kossi Adjonou. Les recherches n'ont pas de limites, n'ont pas de frontières. Et ça revient justement ce que le philosophe Sénèque a écrit, qui a dit donc, je ne suis pas né pour un seul recoin. Ma patrie, c'est le monde tout entier. Vivement que les recherches de nos chercheurs ici au Togo et de l'Afrique se fassent valoir dans le monde entier. Je rappelle que c'est le 12 septembre aujourd'hui, journée des Nations Unies pour la coopération sud-sud. Voilà des chercheurs de l'Afrique de l'Ouest qui vont se retrouver pour mutualiser leur énergie. Aimer le bon, c'est une belle initiative à encourager et à étendre à d'autres domaines.
Mais naturellement, je crois que quand il y a ce genre d'occasion qui permettent en tout cas à ce que les professionnels dans le domaine se retrouvent, oui, il faut les encourager et faire en sorte que ça puisse prospérer. Bon, c'est vrai que tout le temps on se demande les Africains, ils cherchent quoi? Ils trouvent quoi? C'est la question qu'on se pose, mais je crois qu'il y a certaines précisions qui ont été données tout à l'heure par le professeur. Oui, ce n'est pas qu'on ne cherche pas. Bon, on en cherche. Mais le plus souvent, c'est les moyens qui manquent justement, parce que quand on n'a pas les moyens, parce que justement, il faut avoir une politique de recherche également permettre à ce que les gens s'investissent dans la chose et pouvoir trouver ce qu'on cherche. Voilà.
Merci. Les moyens qui manquent pour financer la recherche, les moyens qui manquent aussi et surtout pour valoriser les résultats auxquels aboutissent nos chercheurs. Anas Samjobo, tu ressembles à un chercheur, mais tu n'en es pas.
Et qu'est-ce que vous en savez?
Ah, oh. Non, je le connais.
Je suis un chercheur en téléchargement.
Bonjour.
Alors bonjour Sass, très heureux de te retrouver au studio depuis plusieurs semaines. On s'est écrit, mais on ne s'est pas vu. Là, je suis très heureux de te retrouver en bonne et due forme. Et bonjour aux collègues, à l'invité, aux confrères aimés. Bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de la 93.5.
Non seulement ça, mais on nous écoute également sur Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takwame, Radio Centre FM chez toi,
partout,
à Sokodé.
Ah oui.
Partout donc, au Togo, en Afrique,
tout,
dans le monde.
Tous les auditeurs du monde.
Surtout bonjour à vous. Tes parents.
Oui, ils sont toujours à l'écoute, surtout quand je suis de passage.
Ah bon?
Ah oui.
donc vous faites une publicité autour quand vous arrivez.
Bien entendu.
Sans blague.
Merci à propos des auditeurs. Je dois y rappeler que sur le coup de 12 heures, vous pourrez entrer en ligne sur les deux numéros, le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Vous pouvez nous faire revisiter tous les sujets par vos commentaires, vos questions. Le professeur Adjornou, il est à nos côtés. Les confrères également pour les sujets dont ils vont débattre dans le sport. Mais le week-end dernier, nous avons vu nos éperviers, hommes et dames à l'œuvre. Commençons par les garçons qui étaient à Kégué. C'est dans le cadre de la sixième et dernière journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ou 2024 selon cette CAN qui va se jouer en Côte d'Ivoire, tout à côté ici. Les éperviers ont été éliminés depuis, mais c'était tenu de jouer ce match-là. Tu veux bien nous en parler, comment le match a commencé et comment ça a fini?
Ah bon, là, il faudra faire un compte-rendu alors. Simplement dire que oui, c'est vrai que le Togo était déjà éliminé à la cinquième journée, malgré la victoire du Togo en Afrique du Sud sur les Swatini à l'époque. Mais bon, il fallait que le Cap Vert ne gagne pas le Burkina Faso. Vous savez qu'il y a des calculs d'apothicaire qu'il fallait donc régler. Finalement, ces calculs ont été contre le Togo. Le Togo avait déjà été éliminé. Alors, pour la sixième et dernière journée, c'est vrai, il n'y a pas d'enjeu à proprement parler, mais le Togo avait besoin justement de se rassurer. Vous savez que depuis quelques années, déjà le Togo ne gagne pas à domicile, ça c'est un. Ça fait 4 années précisément que le Togo ne gagne
plus. Quatre bonnes années, oui, que le Togo ne gagne plus à domicile.
Oui, la dernière victoire du Togo remonte en 2019, c'était face aux Comores ici. Et puis après, plus rien, c'est des défaites, c'est des matchs nuls, etc. Quelques rares victoires emportées à l'extérieur, mais depuis 4 années, ben, il n'y avait plus rien comme victoire au Togo. Et donc, cette dernière journée, puisque depuis quelques 3 matchs déjà, on se dit qu'on est en refondation donc de cette équipe nationale, surtout avec la double confrontation contre le Burkina Faso. Vous rappelez, 1-0 à l'extérieur et puis match nul donc à domicile. Alors on se dit oui, on est en train d'expérimenter une nouvelle tactique de jeu, le 3-5-2 notamment. Et donc ça a permis peut-être de gagner le match sur les Swatini, mais ça reste quand même les Swatini, vous comprenez ce que c'est. Alors donc, toutes les attentions étaient focalisées sur cette explication entre le Togo, les Cap Vert, les Requins Bleus, et qui sortent déjà de la dernière participation donc à la CAN. Donc, vous voyez que les Requins Bleus, ce ne sont pas, on va pas dire que c'est... qui sont faciles à battre. Alors donc, il fallait mettre les bouchées doubles. Et je crois que le Togo a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, en ce sens que le Togo a été mené en 20 minutes 2-0. Et c'est l'une des rares fois où on a vu une réaction positive donc du Togo, pour d'abord remonter la pente et aller jusqu'à gagner 3-2. Alors donc on s'est dit oui, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que la nouvelle politique qu'on est en train d'introduire est en train de marcher. Paulo Duarte a besoin justement d'un groupe. Le groupe est en train de se mettre en place peu à peu. Je crois que j'avais eu déjà à expliquer certaines choses concernant le fait qu'on a eu des problèmes à renouveler l'effectif du Togo. On avait cru pendant longtemps que les Adebayor étaient éternels, sans savoir que eux aussi devraient avoir une fin. Et donc, on n'a pas su préparer une relève. La situation a surpris le Togo et on a tergiversé pendant plusieurs années. je crois que maintenant, on est en train d'avoir un semblant d'effectif. Ce n'est pas facile, hein. Mm-hmm. Vous ne verrez plus donc un Togolais qui évolue dans un grand club, ça n'existe plus. Mais c'est peu à peu, il y a donc des joueurs qui évoluent dans des secondes zones, comme on le dit habituellement, parfois même dans des championnats exotiques. Mais c'est une question d'organisation. Et je crois que c'est en revenant et en faisant donc de bons jeux qu'ils peuvent également gagner d'autres clubs supérieurs. Et donc je crois que nous avons réussi à avoir ce qu'il faut. La victoire, d'accord, c'est fait. Mais maintenant, il faut surfer sur cette victoire-là et se préparer pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui s'annonce très
bien. Ce qu'il faut relever, c'est que pour une des rares fois, le stade de Kégué était assez, enfin les gradins étaient assez garnis. Et puis le Togo menait 0-2 en une vingtaine de minutes, mais les éperviers qui ont su remonter. En Espagne, on parlerait de remontada. Mené 0-2, les éperviers ont pu l'emporter 3-2. Au final, avec une certaine ferveur qui nous rappelle un temps pas si lointain que ça. Bon, maintenant, c'en est fini pour la CAN 2024 qui va se jouer en janvier-février en Côte d'Ivoire. Mais déjà, le Togo s'est inscrit pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous sommes dans un groupe comportant, entre autres, le Sénégal. Et cette compétition aussi va démarrer dans quelques mois.
Oui, c'est pour ça qu'il fallait justement quelque chose de positif par rapport à ce match-là, pour espérer voir la progression de l'équipe. C'est vrai que on n'envisage pas une qualification pour la Coupe du Monde, ce serait peut-être trop demandé, mais c'est convaincre dans le jeu, avoir une progression dans la production du jeu, et je crois que c'est avec ça là, on va se préparer plutôt pour la CAN qui va suivre. Voyez-vous, puisque normalement, il devrait y avoir une autre CAN en 2025. Mm-hmm. Alors, la Coupe du Monde, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, oui, mais il faut présenter un bon visage. Vous avez parlé tout à l'heure du Sénégal qui est également dans notre poule. C'est vrai aussi qu'en 2006, en tout cas 2004-2005, puisque lorsque nous disputions, disons, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006, oui, il y avait également le Sénégal dans notre poule. Vous rappelez le Sénégal
avec
qui venait
le Mali, le Congo Brazza.
Le Sénégal qui revenait d'une participation à la Coupe du Monde en 2002. Voyez-vous. Et donc c'était d'abord un groupe difficile. Nous avons eu le Mali, nous avons eu le Congo, mais pourtant le Togo s'était qualifié à la surprise générale. Alors pour ces éliminatoires de 2026, on s'est dit d'abord, on veut se rassurer par rapport à notre jeu. Et lorsque nous aurons eu cette assurance-là, bon, ben, l'appétit venant en mangeant, ben, on verra bien ce que ça va donner.
Et peut-être que les éperviers garçons vont communiquer cet appétit vorace à leurs sœurs, hein, des épervières dames, qui jouent sur deux fronts, hein, les épervières, si c'est permis, hein, juniors. Qui ont joué la dernière fois match retour contre la Guinée-Bissau.
Déjà éliminé.
Maintenant, c'est les éperviers et éperviers seniors qui se préparent à recevoir en deux confrontations leurs homologues de Djibouti. Oui. Je crois que ce sera pour la prochaine CAN féminine.
Oui, vous savez que le Togo a déjà participé à la dernière CAN des dames au Maroc. Avec les résultats qu'on connaît, mais on voudrait bien remettre ça. Et donc, pour le match contre Djibouti, heureusement donc que les deux matchs vont se jouer à Lomé, mm-hmm. Parce que les stades de Djibouti n'ont pas été homologués par la CAF et Djibouti a décidé de jouer ou de recevoir à Lomé. Et donc, ça va être une double confrontation ici à Lomé. D'abord le 22 septembre prochain, ce sera donc l'autre vendredi. Et puis, le 26, donc le mardi qui suit, donc pour le match retour. Alors, c'est vrai, la sélectionneur Kai Tomiti a fait le rappel de ces joueuses expatriées. Vous savez, donc, il y a une légion togolaise qui joue actuellement au Maroc. Il y en a qui jouent également en France, en troisième division ou en nationale. Mais on les a fait. Elles sont toutes dans la liste, en espérant justement de passer d'abord le cap de Djibouti, mais aussi commencer à préparer le match qui va suivre. Ce serait, disons, le vainqueur du match Côte d'Ivoire, je crois que c'est Côte d'Ivoire-Mauritanie. Tanzanie plutôt. Côte d'Ivoire, Tanzanie. Mmh. Alors donc, voyez-vous que déjà, si on passe le cap de Djibouti, la prochaine étape, c'est déjà difficile. Mmh. Parce qu'il y a la Côte d'Ivoire, qui a également des joueuses internationales, et il y a la Tanzanie, dont le football progresse depuis quelques années, voyez-vous. Alors donc, d'abord, on se dit, il faut d'abord passer le cap de Djibouti. Mmh. Et on met les bouchées doubles pour pouvoir y arriver, parce que l'objectif, en tout cas, c'est que le Togo puisse aller pour la deuxième fois consécutive, justement, à cette CAN qui se joue encore une fois au Maroc. Et puisque nous sommes habitués donc au Maroc, ce serait déjà bien donc pour nous. Mais pour les juniors, ben, une double confrontation face
à la Guinée-Bissau.
Ici, à Lomé, on a déjà perdu. Vous voyez, vous 3-1. Et il n'y a pas eu donc cette remontada, malheureusement. Et ben, le samedi dernier, à Bissau, et bien, les Togolaises ont perdu 0-3.
Merci.
Éliminés donc de cette compétition.
Les grandes équipes ont souvent besoin de matchs références pour se relancer. Présageons que ce qui s'est passé dimanche avec les Éperviers soit un top départ que les garçons vont partager avec les filles ou les dames, pour que le sport reparte vraiment de l'avant. Et mais tu as un inconditionnel fan, il s'appelle Monsieur Adewi et il habite le quartier Adewi. Il me charge de te saluer.
Oh, semblable.
Seulement, il ne sait pas si c'est ton beau frère ou bien ton mauvais frère.
Dans tous les cas, je le salue. Il est togolais, il est à Adewi. Bon, c'est d'accord. Bonjour.
Merci. Mon frère Adewi. Anna Sam Diabo.
Oui, moi, je pense que pour le moment, ne demandons pas trop aux Éperviers d'âme, parce qu'il faut déjà qu'on s'assure de la performance ou des résultats des hommes, parce que c'est ça qui est le plus important. Les Éperviers qui ont par le passé fait rêver le public sportif togolais, tous les Togolais d'ailleurs, en 2006, Aimé le rappelait tout de suite, avec la participation à la Coupe du Monde, et qu'on se dise que depuis 2019 jusqu'à ce jour, on n'a même pas enregistré de victoire sur nos propres installations, c'était un truc quand même étonnant. Et cette fois-ci, je crois que la victoire de la dernière fois, même si ça ne nous propulse pas devant dans la compétition, je pense que c'est déjà une bonne chose. Et Aimé disait tout de suite qu'on ne va pas demander aux Éperviers d'obtenir une qualification pour la Coupe du Monde. Mais moi, je pense que impossible n'est pas togolais. Si les Togolais ont pu battre le Sénégal, le grand Sénégal de El Hadj Diouf, je me rappelle encore dans le parcours pour la qualification de la Coupe du Monde 2006, ce n'est pas le Sénégal d'aujourd'hui avec Sadio Mané que le Togo ne pourra pas battre. Et le football reste toujours un jeu. Et moi, je pense que les Togolais n'ont qu'à avoir dans le mental qu'ils iront pour gagner, ils iront pour ramener une qualification et ne pas baisser les bras. Ça, c'est du côté des hommes. Maintenant, pour les femmes, elles font déjà des efforts, parce que quand elles ont des participations à l'international, je crois que c'est le nécessaire. Maintenant, il faut étoffer les équipes pour qu'on puisse mieux espérer de ces dames.
Merci. Tout commence par les rêves. Et je me rappelle ce slogan de la Confégiel avec la Maison des Jeunes TV5 Monde, qui aime partager avec les jeunes du Togolais, les jeunes Togolais, ce slogan « Jusqu'au bout de mes rêves ». C'est les Éperviers, et les Éperviers nourrissent le rêve, et si ils ou bien elles se disent « Jusqu'au bout de nos rêves », pourquoi pas, ou bien « Warum nicht », comme diraient nos amis allemands, les Allemands dont l'équipe également est en situation difficile.
Tout à fait.
Il y a un match amical aujourd'hui à Dortmund, La Mannschaft qui n'en est plus une, hein, qui a perdu ses griffes. On verra ce que ça va donner devant la France.
Le sélectionneur a été remercié.
Merci. Alors, le gouvernement du Togo recomposé, c'était le week-end dernier, dans la nuit du samedi au dimanche. Tout a commencé par quelque chose qui circulait sur l'écran de la TVT au journal de 20h, que M. Christian Trimoine venait d'être nommé ministre secrétaire général du gouvernement. Et puis dans la foulée, le M. Christian est venu effectivement à la télévision pour porter connaissance, enfin, pour informer des nominations que le chef de l'État venait d'effectuer et que nous baptisons recomposition du gouvernement ou bien remaniement remaniement du gouvernement, même si on attend la photo officielle du nouveau gouvernement recomposé. Sam Diabob, comme tu es en retard, peut-être que tu attendais d'avoir l'exclusivité, d'avoir la composition complète de la nouvelle équipe gouvernementale.
Non, la nouvelle équipe, c'est quoi? C'est 5 nouvelles entrées, 6 départs, et puis oui, bon, maintenant, est-ce que c'est un remaniement? Ça reste un remaniement. Oui. Ça dit que c'est un ajustement que le chef de l'État a opéré. Il a changé quelques personnes. Il a fait observer un jeu de chaises musicales à d'autres. Mm-hmm. Il y a d'autres qui de nouvelles entrées. Et moi, je pense que ça demeure toujours dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, mm-hmm. qui est en train d'exécuter un mandat qui court jusqu'en 2025. Alors, en 2023, on peut se dire que nous sommes pratiquement à mi-mandat ou un peu plus au-delà du mi-mandat. Et il a un programme sur lequel il travaille. Alors, s'il fait un état des lieux et qu'il se rend compte qu'il y a certains pans de sa gouvernance ou de son programme qui n'ont pas suffisamment évolué, il faut faire du réajustement, histoire de donner du boom au cœur des Togolais et de faire en sorte que le bonheur qu'il est en train de prédire ou qu'il est en train de programmer pour promettre à tous les Togolais, mm-hmm. puisse arriver. Parce que quand on prend les différents ministères qui ont connu je prends spécifiquement le ministère de l'eau.
Nous allons y arriver, mais pour le général Actu Express qui titre aujourd'hui « Curieux remaniement ministériel au Togo, des sortants, des entrants, des jeux de chaises musicales et de surcharge, hein, des portefeuilles restés vacants ». C'est ce que Actu Express écrit. C'est pourquoi il demandait si la nouvelle équipe recomposée, hein, sortait officiellement, on verrait si tous les portefeuilles sont pourvus ou bien s'il y a un peu des creux par-ci par-là.
Oui, quand on prend par exemple le cas du ministre Christian Trimoy, mm-hmm. qui était précédemment au ministère des Droits de l'Homme et qui est aujourd'hui au secrétariat général du gouvernement, peut-être les Togolais vont se poser la question, comment ça va se passer? Il va cumuler les deux, mm-hmm. ou il y aura quelqu'un?
J'avoue que moi-même, je me pose cette question.
Voilà, donc à cette question, je crois que Christian Trimoy, c'est un habitué du club de la presse. Oui. Le jour où il sera ici, on pourra lui poser la question.
Mais en attendant,
on a vu des ministres cumuler deux portefeuilles.
Oui.
Et ça n'a dérangé personne. Et c'est des gens qui ont été efficaces à leur poste. Et Christian Trimoy, moi, je le connais très bien. C'est quelqu'un, c'est un bosseur. Et en attendant qu'on désigne quelqu'un pour occuper le poste de ministre des Droits de l'Homme et de la formation à la citoyenneté, je pense qu'il peut tout de même être à cheval entre le secrétariat général du gouvernement et son portefeuille. Jusque-là, il n'y a pas péril en la demeure. Maintenant, je voulais évoquer le cas de l'eau, toujours dans la recherche.
À ce niveau-là, je peux te rassurer que j'ai eu quelques indiscrétions qui informent que le ministre Trimoy, il garde ses attributions des droits de l'homme, de la formation, la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République jusqu'à nouvel ordre. C'est l'indiscrétion que je viens d'avoir aujourd'hui, mais que je suis autorisé quand même à partager avec vous. Alors, toujours sur la recomposition, le journal L'Union, c'est d'ailleurs le sujet à la manchette, L'Union qui titre « Remaniement ministériel, 6 départs, 5 nouveaux, 3 anciens qui changent de place sur décision de Faure Gnassingbé ». Et puis, Vision d'Afrique qui parle des dessous et des non-dits d'un remaniement. Mais c'est vrai, tu n'es pas de la rédaction de Vision d'Afrique, mais est-ce que tu penses également qu'on doit rechercher les dessous et des non-dits de cette recomposition de l'équipe gouvernementale?
Non, mais je crois que Anas, dans ses premières analyses, disait tout à l'heure que la composition d'un gouvernement, c'est d'abord le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Donc c'est lui qui justifie son mandat à la fin. Et donc c'est lui qui sait quand il a besoin d'échanger tel pour avoir tel résultat. Et je crois que si on se met dans cette posture, on comprend que dès lors qu'on constate qu'il y a défaillance quelque part, naturellement, on peut changer. C'est pour ça qu'Anas parlait de réajustement. Et c'est ces deux expressions-là que je garde, que je me dis, chercher les dessous, en tout cas, pour un travail de journaliste, oui, il va faire peut-être les investigations pour savoir les dessous. Bon, on attend justement qu'il nous livre ces dessous-là. Mm-hmm. Mais je dis, a priori, C'est normal, ça se passe partout. Même en France, si vous voulez, qui est souvent donc notre référence. Mais quand ça arrive à un moment donné et qu'on voit qu'il y a une défaillance quelque part, ben on essaye donc de réajuster.
Alors justement, à propos des départs, parce qu'il y a 6 ministres qui viennent de quitter le gouvernement, est-il besoin de les citer? On les connaît déjà un peu. Hein. Alors, les départs, est-ce que c'est parce que le chef de l'État ou la chef du gouvernement ne serait pas satisfaite de leur prouesse? Ou bien juste un jeu de géopolitique, ou bien d'ajustement parce que de nouveaux paramètres seraient entrés dans le jeu.
Anas. Alors, avant de te répondre, moi, je veux faire une confidence. Au premier séminaire gouvernemental, après la nomination de Mme Victoire Dogbé, les bruits avaient couru que le chef de l'État voudrait une équipe soudée qui va travailler jusqu'à 5 ans, de sorte à maintenir la cohésion et l'action du gouvernement. Mm-hmm. Alors, c'est comme il s'est dit que à chaque fois qu'on fait un remaniement ou à chaque fois qu'il faut changer un ministre par un autre citoyen, cela a un impact sur le fonctionnement de l'ensemble du gouvernement. Donc, l'idée pour lui, au départ, c'était d'aller avec ce gouvernement jusqu'à 5 ans. Ce qui justifie d'ailleurs les nombreux séminaires gouvernementaux pour essayer de revisiter la feuille de route, voir où est-ce que le travail bat de l'aile pour pouvoir remonter la pente. Mais là, s'il a tenu jusqu'à 3 ans avant d'opérer ce remaniement, moi je pense que à un moment donné, il se disait qu'il faut forcément faire ce remaniement-là pour donner les résultats escomptés et par lui-même et par les Togolais. Et parlant des départs, on note le départ du ministre, le professeur Aïwadan, Akwada Aïwadan, qui est remplacé par Madame Kuigan Yawa. Mm-hmm. Aïwadan, c'est vrai que tout le monde l'appréciait, il était porte-parole du gouvernement, il a la pédagogie, quand il y a des décisions, il vient, il l'explique bien, mais pour le moment, contrairement à ce que le journal Vision d'Afrique parle des dessous de l'humain, voilà, donc nous, à notre niveau, on ne peut pas dire exactement pourquoi il a été changé. Et s'il a été changé, et qu'il n'y a pas eu une note pour dire qu'il a été fautif ou bien il a été acteur d'une malversation ou de quoi que ce soit, ça veut dire que c'est un Togolais qu'on peut toujours appeler à d'autres fonctions. Maintenant, parlant de la nouvelle entrante, Mme Kuigan Yawa, Mme Kuigan, tout le monde la connaît. Elle a fait longtemps la direction de la communication de la présidente de la République, où elle en a même été adjointe au directeur de la communication. C'est une dame qui était en poste depuis 10 ans. Donc, elle a l'air du mal de la communication. D'abord, c'est quelqu'une de très bien formée. Elle a l'expression, elle a l'écrit, et puis elle a la méthode. Aujourd'hui, au niveau du ministère de la Communication, je pense que elle doit pouvoir mettre tous ses atouts-là et tout son profil au service de la communication pour que le chef de l'État et l'État togolais tout entier puissent obtenir les résultats ou puissent beaucoup plus lui faire confiance. Maintenant,
Aimé sur les départs. Sam a déjà abordé le cas de Akwada Aïwadan, qui est de notre domaine, communication et médias. Mais il y a aussi et surtout Payadoua Boukousi, que d'aucuns qualifient de mastodonte, omniprésent dans différents gouvernements depuis près de 30 ans. Il y a lui qui est parti, tout comme Boly Diatiem. Hein, Boly Diatiem qui vient de céder l'eau et l'hydraulique villageoise au général Yar. Il y a également Kofi Tchorenyanou qui vient de céder l'urbanisme à Kodjo Adeje. Il y a également Dame Mamesile Akla Assi qui a cédé également l'accès universel au nouveau venu
Jean-Marie
Tessi. Et puis Kanka Malik Nachaba qui vient de céder donc le secrétaire général du gouvernement à Christian Trimoy. Alors, qu'est-ce que toi tu penses de ces départs, Aimé?
Non, mais moi je crois que nous avons déjà exprimé et expliqué d'ailleurs cet aspect. Hein. Déjà, quand nous prenons le doyen, comme on dit beaucoup ici, Payadoua, vous l'avez déjà dit, peut-être qu'à un moment donné, on estime que sa longévité également fait qu'il est peut-être il a de l'usure en la personne, qu'il faudra peut-être avoir quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui puisse porter la chose autrement. Bon, ça on l'a dit, on ne sait pas exactement ce qui quels sont les dessous de leur départ. Jusqu'à présent, moi je n'ai pas cherché à savoir parce que je me dis toujours que il doit y avoir des motifs. Pourquoi on change tel? Pourquoi, par exemple, Thiem est parti? Mais tout cela doit avoir une explication. Mais il n'y a que celui qui a changé qui puisse savoir exactement ce pourquoi il n'a plus besoin de la personne en ce moment précis. Anas disait tout à l'heure que peut-être qu'on a besoin de ces gens-là ailleurs. Ça peut être ailleurs. On peut les déployer ou redéployer ailleurs. Mais pour le moment, peut-être l'objectif qu'on leur a fixé à un moment donné, ça a été évalué et que ce n'est pas ce qu'on voudrait en ce moment précis. Et donc, on pense qu'il faudra mettre quelqu'un qui puisse aller ou qui puisse remplir, disons, la fonction, non seulement la fonction, mais qui puisse permettre d'atteindre l'objectif qu'on a fixé. Donc, vous savez, c'est d'ailleurs ce pourquoi on disait qu'on a multiplié les séminaires gouvernementaux. C'est pour que tout le monde, tous les ministres là, à chaque fois, on essaie donc de les évaluer. Où est-ce que vous étiez arrivé? Voilà ce qu'on vous avait fixé au départ. Puisqu'au départ, on leur a donné, chacun avait sa feuille de route.
Sur laquelle ils sont évalués.
Ils sont évalués. Voilà. Donc,
mensuellement ou bien annuellement.
Oui, bon, moi je ne sais pas trop, mais je sais qu'il y a quand même des séances d'évaluation. Mais maintenant, si on évalue une fois, deux fois, trois fois, et qu'on voit qu'il y a défaillance, mais le patron peut décider de changer pour voir s'il peut atteindre l'objectif. Je crois qu'il faut comprendre la chose la plus simplement possible et peut-être que ça nous permettra d'avancer.
Merci. Avançons justement avec trois ministres qui sont restés dans le gouvernement mais qui changent de chaise. Il y a Yark qui vient de quitter la sécurité et la protection civile pour l'eau et l'hydraulique villageoise. Il y a Adéjé qui vient de quitter le commerce, l'industrie et la promotion de la consommation locale et qui passe à l'urbanisme, au gros dossier de la réforme foncière. Et puis il y a Dame Kaïm Ividor qui vient de quitter la promotion de l'investissement pour le commerce. Sam Diobo.
Alors, il y a certains postes ministériels ou certains ministres qui ont fait preuve de rigueur. Yark, il était en poste, je crois, depuis 2013. Depuis 2013, il est ministre de la Sécurité, une dizaine d'années, ou pratiquement il tend vers 11 ans. Il a fait ses preuves. Et aujourd'hui, quand le chef de l'État décide de l'envoyer à l'eau et à l'hydraulique, ça veut dire qu'on l'envoie à une mission. C'est-à-dire qu'il a fait preuve de rigueur, on a vu. Maintenant, le département de l'eau, qu'on se dise la vérité. Au moment où le Togo fait des efforts, on multiplie les financements pour les forages, il y a des localités qui peinent toujours à avoir de l'eau potable. Ce n'est pas faute de moyens, mais peut-être c'est par faute de méthode ou faute de rigueur à la tête de ce département. Alors, donc, moi, je pense que le général Yark, il vient en mission pour redresser ou pour redonner la vigueur à l'ambition du chef de l'État d'offrir de l'eau potable à tout le monde. Quand on prend le ministre Adéjé également, le ministre Adéjé, il a fait ses preuves au ministère du Commerce. Aujourd'hui, au niveau de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière, il faut qu'on se dise la vérité. Quand vous arrivez au tribunal, pratiquement plus de la moitié des dossiers qui sont là-bas, là, c'est des dossiers fonciers.
90%.
De dossiers qui sont pendant là-bas, c'est des dossiers fonciers. Et le ministre Tcholenyanou, maître Tcholenyanou qui est parti, franchement, personnellement, moi, je ne l'ai pas vu bouger. Je ne l'ai pas vu bouger. À son niveau, c'est comme si, entre-temps, le ciel s'est arrêté, rien ne fonctionnait. Mais alors qu'il y a de sérieux problèmes, l'État même a pris, je crois qu'il y avait un décret pour permettre à tout le monde d'immatriculer toutes les, que ce soit les réserves, les parcelles, tout ça là. Et ce décret là devrait rentrer en application depuis le 6 juin dernier. Il n'y a pas une communication qui est accompagnée. Lui-même, il est invisible. Je ne sais pas combien de fois il est apparu sur les écrans de télé, mais c'est un ministre qui a totalement démissionné. Et je pense que, à ce niveau, il faut quelqu'un de rigoureux, comme Adéjé aussi, pour relever la pente.
Merci Adéjé. On l'a vu. Bon, je n'évalue pas ses performances au ministère du Commerce. Mais quand il est venu, il a quand même rebâti le ministère. Alors, là où il va là, je ne sais pas si vous connaissez le ministère de l'urbanisme. Adéjé devra mobiliser des fonds pour rebâtir le bâtiment aussi.
On parle de l'urbanisme.
D'urbanisme et de l'habitat.
Et de l'habitat, oui. Okay. Vous imaginez ce que c'est?
Bon, et d'abord, il va commencer par rebâtir le cadre et puis on verra. Alors, Aimé, parmi les trois ministres qui ont changé de portefeuille, il y a deux qui sont montés en grade. Hein, dans le protocole du gouvernement, il y a Yark qui devient ministre d'État et idem pour Kodjo Adeyé, ce n'est pas fortuit, Aimé.
Mais naturellement, ce n'est pas fortuit. Et on ne décrète pas les gens, on nomme pas les gens ministres d'État. Comme cela, ça veut dire que, comme on l'avait dit, ce n'est pas gradation. Et donc, ça veut dire que, juste après le Premier ministre, quand vous voulez suivre donc, la gradation,
protocolaire,
justement, après le Premier ministre, c'est d'abord les ministres d'État. Avant que les autres n'apparaissent. Mm-hmm. Voyez-vous? Oui. Alors, ça dénote également de l'importance, peut-être, que le patron accorde justement à ces gens-là par rapport au travail qu'ils ont fait, mm-hmm. là où on les avait mis. Quand vous prenez donc le général Yacp, par exemple, on vous a dit quoi hier? Qu'est-ce qu'il disait? Je suis un soldat tombé dans l'eau.
Et... avec l'espoir qu'il ne se noie pas.
Oui, mais justement, quand vous êtes soldat, vous tombez dans l'eau, vous allez vous débattre, ouais, pour vous en sortir. Et donc, je crois que c'est l'image qu'il veut donner, justement, à travers cette phrase-là. Je suis un soldat tombé dans l'eau, je vais me débattre, en tout cas, je m'en sortirai. Ah oui, mais un bon militaire, justement, on l'envoie en mission, et il doit remplir cette mission. Revenir donc avec la victoire, c'est tout le mal d'ailleurs qu'on lui souhaite. Alors, pour ce qui concerne M. Adeyé, vous savez, tout son parcours, partout où il est passé, il est bien apprécié. Voyez-vous, avant d'être ministre, on sait où il était. Son travail avait été apprécié.
Il est douanier, après il est passé à l'OTR.
Oui, et après ministre donc du commerce, je crois que il a essayé donc de faire ce qu'il faut pour ramener un peu d'ordre justement dans le secteur. Bon, peut-être qu'on a pensé que c'est avec ça on peut poursuivre le travail. Maintenant, là où il y a encore de problèmes, je crois que c'est ce que disait Anas Diabo tout à l'heure, mais écoutez, au niveau de l'urbanisme, déjà quand vous analysez déjà la situation donc du bâtiment qui abrite le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, il y a bien sûr à regarder, à sourire, si ce n'est rire. Alors donc, pour dire que oui, on les a montés en grade pour les encourager et leur dire encore, faites plus que ce que vous aviez fait. Je crois que c'est ça.
Alors les nouveaux entrants, ils sont 5, mais ceux qui défraient surtout la chronique, c'est le nouveau ministre de l'administration territoriale, Odabalo Awate, colonel de son état, qui a une longue et riche expérience comme préfet. Il a fait Loti, il a fait Golf, il était à Gwenyevé. L'autre également, c'est Calixte Batozi Majulba. Il a également une expérience diplomatique pas moindre et il vient d'être rappelé donc à la sécurité. Il a déjà pris fonction hier. Et puis, on a déjà parlé de Yawa Kuigan, la communication, et de Jean-Marie Kofi Tessi, qui est dans l'assurance, ouais, et dans l'humanitaire, et à qui vient d'être confié l'accès universel aux soins. Sam Diabo.
Alors, le préfet, je commence par le préfet Awate Odabalo. Il a été longtemps préfet Oti, Golf,
et à Gwenyevé.
Oui, à Gwenyevé. C'est quelqu'un de rigoureux. Les gens lui font même le procès d'avoir des méthodes fortes. Et quand on est un corps habillé, je crois que la première caractéristique d'un corps habillé, c'est la rigueur. Mais lui, il a encore la chance d'avoir le sourire. C'est-à-dire qu'il sourit en étant rigoureux. Donc, dans son sourire, il veut obtenir les résultats. Et je pense que quelqu'un comme ça, comme au ministère de l'administration territoriale, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, c'est the right man at the right place. Mm-hmm. Et donc, pour lui, il n'y a même pas de doute parce qu'il a fait ses preuves sur le terrain et le chef de l'État, l'envoyant là-bas, sait pourquoi et il sait qu'il peut tenir. Parce que le ministre Boukwessi aussi, il a travaillé, on l'a vu, même avec, lors des dialogues, le CPC et autres avec l'opposition, il a toujours des propos courtois, mais sauf que lui aussi, il y a la rigueur qu'il applique.
Il autrement est toujours dit, des mains de fer
dans des gants de velours. Voilà, donc le ministre Payadoua Boukwessi, il passe le témoin à Awate Odabalo, quelqu'un d'aussi rigoureux que lui. Et je pense que là aussi,
mais
ça pourra aller.
Mais à ce ministère-là, les dossiers ne manquent pas. Hein. D'abord, la chefferie traditionnelle, les manifestations politiques, les partis politiques, les associations, peuvent-ils ou doivent-ils manifester plus ou moins librement? et puis bientôt les élections législatives régionales avec 2025 qui n'est pas loin. Voilà des dossiers sur lesquels on attend, au Dabalo, à Ouaté. Mais pour faire tout ça, il faut de la sécurité, aimer le bon. Et c'est un diplomate militaire qui vient d'être nommé à la succession de Yark.
Mais a priori, il est militaire. Donc avant donc de, j'allais dire, d'aller vers la diplomatie, il est d'abord militaire. Je crois que ça fait... Il a fait une dizaine d'années en tant qu'ambassadeur. Peut-être on se dit, est-ce qu'il n'est pas déconnecté de la réalité ou des réalités togolaises, puisqu'il résidait donc en France.
Mais il était très souvent à Lomé. Hein?
Oui.
Il est plus à Lomé qu'en France.
Bon, on dirait. On dirait. Alors donc, je crois que, encore une fois, je me répéterai plus finalement, mais le chef de l'État sait pourquoi il a déplacé, pourquoi on a enlevé Yark de là, et pourquoi on pense que c'est Calix, le colonel Calix, qui peut résoudre le problème. C'est une question de... vous savez qu'il y a donc des problèmes de sécurité, en tout cas de terrorisme au nord, tout ça là. Mm-hmm. Il faut également une dose de diplomatie pour voir à peu près comment on peut concilier les choses. C'est-à-dire, il y a la sécurité, mais il y a aussi la diplomatie qu'il faut y mettre dedans. Bon, on va le suivre et voir que, d'abord que sa méthode de travail, son plan d'action, sa stratégie, je crois qu'il faudra peut-être analyser tout cela pour voir ce qu'est l'homme.
Et quelqu'un qui n'est pas moins attendu, c'est Jean-Marie Koffi et Onoulé Tessi. Il a travaillé longtemps dans le domaine de l'assurance. C'est lui qui vient d'être nommé au ministère de l'accès universel aux soins. La santé, qui est un élément fondamental et qui détermine beaucoup de choses.
Non, mais c'est toujours les assurances. Presque les assurances, ouais. Quand on dit accès aux soins, machin, c'est par rapport aux assurances. Et lui, spécialiste en l'assurance, puisque jusque là il était donc directeur général de GTA C2A. Moi, c'est quelqu'un que moi je connais depuis. Il a fait FEDAS Togo en tant que directeur technique. Après, il était allé à Initia Togo en tant que directeur de courtage. Et finalement, il a atterri donc à GTA, au GTA C2A comme directeur général. Voyez-vous, il a fait un cursus dans les assurances, dans l'humanitaire. Il sait de quoi il s'agit. Bon, on l'amène maintenant à l'accès aux soins et c'est presque dans le même sillage. Il n'est pas ministre de la Santé, mais c'est l'accès aux soins, c'est comment faciliter, justement, comment jouer à la facilitation pour que les assurances santé, etc. Donc, je crois que, oui, il est plutôt dans son domaine et qu'il pourra faire ce travail comme on le lui demande.
Et puis, la dernière... dans l'ordre de nos débats, c'est pas une classification sur un mérite, et c'est la dame qui vient de succéder à Madame Livedor pour la promotion de l'investissement, qui est une grande inconnue, en tout cas pour moi.
Oui, pour moi aussi, Manuela Santos. Il y a très peu d'informations autour d'elle, sauf que quand on fait un peu le check-in, on se rend compte qu'elle est directrice générale d'une société Togo Plaque, qui est une société un peu qui fait dans les plaques minéralogiques, un truc qui n'est pas... En tout cas, il y a beaucoup d'informations qu'on doit rechercher autour de cette dame, qui est une grande inconnue pour les Togolais. Par contre, parlant de l'ambassadeur Majulba, Calix Majulba, je crois que lui, comme le général Yark qui disait que lui est un soldat tombé dans l'eau, lui, par contre, il est un soldat diplomate tombé dans la sécurité. Parce que depuis longtemps, il est aux affaires étrangères depuis 2004. Et aujourd'hui, un militaire, à tout moment, quand on lui fait appel et quand il y a une mission, il doit toujours être prêt. C'est la différence entre les militaires et les civils. Ils sont toujours prêts à servir. Et je pense que le colonel Majulba, on le connaît très bien, il a une grande proximité avec le chef de l'État. Et pour les questions de sécurité, c'est d'abord une question de confiance. Parce qu'on ne met pas à la sécurité qui on veut. Le général Yark, on savait aussi sa proximité avec le chef de l'État. Il a fait 11 ans. Aujourd'hui, il est appelé à d'autres fonctions. Et on amène un autre qui est proche du chef de l'État pour faire valoir ce qu'il a appris à faire parce qu'il est de formation, il est militaire de formation, il a été longtemps diplomate et il connaît les enjeux de la sécurité. Et je pense que c'est ça qui est plus important. Aujourd'hui, il est là-bas. Moi, je n'ai pas de doute. J'ai pas de doute que
nous souhaitons à tous les nouveaux ministres, à ceux qui ont changé de chaise, vraiment beaucoup de succès. C'est ce que nous, les Togolais, nous attendons d'eux et de leur patron. De leur patronne d'abord et puis de leur grand patron, P majuscule. Mais on va terminer rapidement avec cette rentrée diplomatique qui s'est opérée hier. C'est le ministre, le ministère et le ministre Robert Doucet qui ont organisé, mais ils ont accordé l'honneur à Kwaku Kofigo de présenter la déclaration liminaire qui a porté sur le thème les transitions démocratiques en Afrique entre rêve et réalité.
Oui, mais on sait que le premier chef de gouvernement de transition au Togo, c'est Maître Joseph Kwaku Kofigo. Et donc, ayant fait l'expérience
de la transition,
de la transition,
de tout ce qui a meublé de ce temps-là,
oui, de tout ce qu'il y a eu comme situation conflictuelle, situation difficile qu'il a géré, ben peut-être qui mieux que lui peut en parler. Et donc, je crois que c'est bien choisi justement. Et connaissant le monsieur, un vrai poète également. littéraire si vous voulez, et sachant allier le plus souvent la poésie à la littérature et naturellement à ce qu'on lui demande de faire, je ne doute pas qu'il puisse réussir à cela, et je crois que il a bien fait son travail comme cela se doit, cette rentrée diplomatique et donc organisée par le ministre des Affaires étrangères. Bon, juste pour permettre également à Kofikoku, vous savez qu'à un moment donné on a commencé à le perdre, et alors qu'il a encore certaines choses, je crois que de temps en temps il faut de ces genres d'occasions pour permettre également à Kwaku Kofigo et aux d'autres personnes justement qu'on les mette encore une fois en valeur.
Kofigo qui agrémente surtout ses paroles par un humour qui lui est tout naturel et particulier.
Ah oui.
Et Kofigo qui a séquencé sa présentation en trois parties. Un, comprendre les crises actuelles et comment nous projeter dans l'avenir.
Tout à fait.
Deux, l'actualité démocratique, les défaillances, les réussites et les échecs. Et puis trois, les nouvelles transitions pour la restauration des normes constitutionnelles. Suivez mon regard, il n'y a pas que la Guinée, le Burkina, le Mali, le Niger, le Gabon, mais ça peut être trois points de suspension. Il est midi 3 minutes. Nous marquons une pause, le temps que Thomas adresse le clin d'œil de Canal FM, nos partenaires. Et puis nous renouons avec les auditeurs. Soyez rassurés. Notre invité, le professeur Adjonou, est bien à nos côtés, tout comme les confrères Aimé et Sam Diobo, pour écouter vos commentaires, recevoir et répondre, pourquoi pas, à vos questions.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour aujourd'hui, nous avons parlé de la première édition du Salon de la valorisation des résultats de recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest avec professeur Kossi Adjonou qui est à nos côtés. Et puis l'actualité, le sport, la recomposition du gouvernement et la rentrée parlementaire avec les amis et confrères Sam Diobo, Anas Teterou et Aimé Komla. Et puis Aimé Lebon, à présent nous recevons vos commentaires et vos questions.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, grand chance.
Monsieur
Diobo, c'est pas Diobo, c'est Gado.
Monsieur Gado, oui.
Bon, hier, je n'ai pas bien parlé, vous avez dit de revenir, n'est-ce pas?
Oui, en fait, je n'avais pas bien compris ce que vous avez voulu dire hier.
Je vais vous expliquer profondément parce que j'ai fait que la race chansonne ma langue. Mm-hmm. Bon, le problème est que le ministre qui gêne les maires, monsieur Boutin, est parti et les maires peuvent librement aller dénommer les rues. Parce que moi, si j'ai une petite ruelle qui fait 50 mètres et je vais demander à mon maire avocat de venir dénommer ça rue Gado. Bon, maintenant, pour ma question, vous avez dit, les ministres ont fait preuve. Voilà, le gaz était moins cher. Mais maintenant, le gaz a coupé de prix. Et vous dites qu'il a fait ses preuves. Ou bien vous voulez dire les preuves. Ses preuves, les...
Alors, est-ce que ADG a fait ses preuves ou bien ses épreuves au ministère du Commerce? Alors, le prix du gaz, c'est vrai que nous sommes nombreux à demander que ce prix soit revu à la baisse.
mais il y a les contingences du marché international et puis les priorités du gouvernement. Pourquoi pas ce sujet pourra connaître une évolution, tout comme les rues a dénommé par les maires ou les maires avec le ministre. Boukessi est parti, mais les prérogatives restent au ministère. Le colonel Awate saura comment aborder ce sujet avec ses amis, les maires de nos différentes communes. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui, c'est monsieur
Philippe Dagoué.
Philippe Dagoué.
Oui.
Ok, nous écoutons.
C'était pour vraiment féliciter le remaniement là. Sinon, vraiment, mon frère Sass qui est là-bas, je vous avais appelé entre-temps pour vous informer qu'on souffre d'eau dans notre quartier Agoué-Belgique.
Agoué-Belgique?
Oui. Nous avons fait des demandes depuis 2020 pour la promotion. Bizarrement, on nous a tourné. Après, on nous dit de cotiser 25 000, 25 000. On a cotisé. Ça fait 2 ans. Maintenant.
Vous avez cotisé à qui, s'il vous plaît?
S'il vous plaît.
Vous avez cotisé les 25 000 là, déposés auprès de qui?
Il y avait un haut gradé qui a collecté l'argent.
Il est du ministère de l'eau?
Il n'est pas ministère de l'eau. Quand il a vu la TDE, la TDE a dit de collecter les dossiers. Et, par exemple, pour que une personne doit être en tête. Et c'est lui qui est en tête. Maintenant, il a fait apporter l'eau chez lui. Maintenant, même les gens ont eu l'eau, ils n'ont pas cotisé l'argent.
Ok. L'ami Philippe.
Et par après, on retourne à la TDE pour les voir. Maintenant, ils nous disent que ce que la demande qu'on avait fait en 2020, là, Fort avait fait comme promotion, ça n'a plus de valeur.
Ok, l'ami Philippe Dagoué, vous allez demander une audience au ministre Yark. Je crois qu'il a déjà pris fonction. Vous lui exposez les problèmes et il verra quelle solution il pourra vous trouver.
Ok, merci beaucoup.
Je vous en prie. Bonne chance, en tout cas. L'eau, c'est la vie. Merci. L'auditeur suivant, bonjour. Allô? Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, c'est monsieur?
Votre ami Senghor.
L'ami?
C'est Senghor.
L'ami Senghor. Voilà. Il y a beaucoup de grésillements dans la communication. L'ami Senghor, je suis désolé. Nous n'écoutons absolument rien. Nous sommes vraiment désolés. Alors, c'est Senghor qui revient, mais quelqu'un d'autre. Bonjour.
Bonjour, c'est Armand.
Armand, oui.
Oui, c'était pour saluer la performance des épaisiers l'autre fois.
Mm-hmm.
Aussi pour dire que le ministre nouvellement en place doit savoir que le ministre est un serviteur de l'État.
Mm-hmm.
Il faut essayer de prendre des initiatives. Il ne faut pas toujours dire qu'on attend les instructions du chef de l'État. Pour prendre soi-même les initiatives pour faire évoluer le département.
Mm-hmm. Merci beaucoup. Faire des propositions au chef de l'État pour faire évoluer l'action du gouvernement. Oui, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
Oui, c'est M. Anani Noukafou.
Anani Noukafou, oui.
Oui. Bon, j'ai fait la récapitulation au niveau du remaniement du ministère. Et j'ai vu que c'est un aspect un peu politique. Parce que quand tu vois le ministre actuel, Awate, il travaille avec Boukessi. Quand tu vois Dédé, il est toujours au pays, il travaille. Bon, ce n'est pas vraiment une modification. Il faudrait plutôt intégrer les membres de certaines oppositions togolaises pour qu'on sente quelque chose de mieux. Mm-hmm. Je m'en viens maintenant récapituler. Il y a trois sortants qui entrée et 8 portefeuilles modifiés. Si vous pouvez me confirmer cela, c'est 8 portefeuilles qui ont été modifiés. Mais il y a eu 6 entrants, 6 nouveaux ministres et 3 ministres sortis.
Okay.
Revenons en football. Je pense que je vais dire à mon grand frère était de voir le ministre des Sports et le président de la Fédération de football, reconstituer le football à la base, avoir même des championnats nationaux au niveau féminin A, féminin B, senior A et junior A, voire même cadet. Nous, on avait fait junior dans notre temps. Oui. Le temps où à Gaza était chaud, chaud, chaud. Nous, on était champions avec un temps de dans le temps.
Merci.
Dans les années 83, 84.
Oui. Merci d'avoir mentionné à Gaza le club de mon cœur.
Allô?
Oui, non, merci d'avoir mentionné à Gaza le club de mon cœur.
Ah oui, 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 les gens n'ont pas mais c'était nos dirigeants, ils étaient assis sur le banc là-bas, ils nous regardaient. Merci. Oui. À tout à l'heure.
Merci, mais à Gaza, hein, on le cherche sur le plan de football, à se demander où nos amis les scorpions noirs du Tocon se cachent. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui.
Monsieur Assiongbo.
Monsieur Assiongbo.
Salut le plateau.
Nous vous saluons aussi.
Ma question à monsieur Aimé Epé.
Oui.
Et est-ce qu'après Ousmane Bory, le monsieur, est-ce qu'il a été payé? Le Togo a gagné la fois dernière au Kégué là.
Ok.
Parce qu'il connaît cette affaire là. Okay. Il a été payé.
Je vais lui adresser la question.
Merci, bonne question.
Merci. Je rappelle que le professeur Adjonou est à nos côtés hein, pour nous parler, lui qui est venu nous parler du salon de la valorisation des résultats de la recherche de l'innovation. L'auditeur suivant.
Oui, monsieur ça, bonjour.
Bonjour.
Mathieu Davenou.
Mathieu Davenou.
Oui, eh bien, je salue votre plateau.
Merci.
Par rapport au remaniement gouvernemental,
oui.
J'aimerais souhaiter beaucoup de courage à monsieur Mazilka.
Mm-hmm.
Parce que ce n'est pas facile de succéder à un monsieur comme son excellence Yark. Ce n'est pas du tout facile. Donc, du courage à lui.
Merci.
Un peu constaté.
Mm-hmm.
La voie qui quitte vers Voura Badago.
Oui.
C'est une voie vraiment pour éliminer les usagers. Vous aurez dû constater qu'il y a des trous carrément. Ce ne sont pas des comment je vais appeler des
nids. Non, vous avez raison. Quoi. Moi-même, j'ai failli tomber dedans hier quand je rentrais.
Mais monsieur Fabre fait quoi? Quand vous aller à la destinée de ce pays, il faut commencer par des choses comme ça, c'est dangereux.
Le maire de la commune Golf 4. Bon, alors c'est une question que nous posons, vraiment. Les rues là, est-ce que c'est de la prérogative des maires ou bien du gouvernement? Notamment le tronçon qui vient de la banque pour l'épargne et les crédits là, notre banque ici, jusqu'à Badago, c'est un tronçon qu'aucun gouvernement, aucun ministre n'a jamais réussi. Est-ce qu'il y a un fétiche là-bas? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Est-ce que ça relève du maire ou bien du gouvernement dans son ensemble? Hier, quand je rentrais, heureusement que j'étais à vitesse très, très réduite, sinon j'allais tomber dans ce trou-là. Un gros trou en plein milieu de la chaussée. Le dernier auditeur? Oui, bon. Allô, l'ami? Ok, merci.
Allô.
Oui, oui.
Allô.
Bonjour.
Allô, bonjour, enfin.
Ah, et si?
Oui, je voulais plus appeler, mais bon, c'est plus fort que moi, quoi.
Le club de la presse est toujours plus fort que tout.
Oui, c'est plus fort que tout.
Oui.
Oui, bon, ben, le gouvernement, les gens appelent pour des problèmes existentiels depuis 60 ans, tout ça, là. Est-ce que, moi, je ne comprends pas quelque chose, là. Est-ce que vous le comprenez? Pourquoi ils veulent pas fermer ce pays? Pourquoi ils ont bloqué le pays durant 60 ans? Vous parlez des ministres et tout ça là. Vous ne parlez jamais du président. Il est fatigué à le voir à la télévision. Il est fatigué de nous fatiguer, quoi. Mais pourquoi ils ne veulent pas alterner? Ça, c'est comme ça là. Les dieux du ciel et de la terre ne sont même plus avec ces gens-là. Et c'est nous qui souffrons. Nous n'étions pas une quoi. Mais il faut qu'ils trouvent une formule pour alterner, pour qu'on nous fasse grâce des élections, tout ça là, des trucs bidons.
Oui, et dame ici.
Oui.
À chaque fois que vous posez la question, nous faisons la même réponse. Au Togo, nous avons dit qu'on accède au pouvoir par des élections.
Pas des élections. Les élections n'ont plus de sens.
Si on doit aller à une alternance, il faudra que cela se décide au moment des élections. Nous avons les législatives bientôt, et puis en 2025, il y aura l'élection présidentielle.
Les élections n'ont plus de sens. Mais pourquoi les gens ne veulent pas alterner?
Alors, et si? Bon, si on met de côté les élections, on fait quoi pour obtenir votre alternance?
tout mon alternance là.
Oui.
C'est des gens, bon, honnêtes, si on peut le dire. Eux-mêmes, ils voient comment le pays est.
Non, non, concrètement. Concrètement, si on ne doit pas aller aux élections, comment, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour alterner?
Je propose concrètement là.
Oui.
Ils vont trouver une formule là, ils vont appeler les opposants. Hein? Les opposants, il y en a qu'une dizaine, hein, parmi les 120 partis. Et puis ils vont passer la main. On est passé des noms là.
Merci beaucoup, Damessi. Merci. Oh. Merci beaucoup, hein. Ça fait un grand plaisir de retrouver tous les auditeurs avec nous. Alors, Aimé, deux questions rapidement. Il y a l'Aminou Kafou qui souhaite vivement que le ministère des Sports et la Fédération remettent le football à la base. Est-ce que ce n'est pas déjà un chantier qui est activé?
Oui, écoutez, j'allais même dire que c'est le vœu de tout le monde. Aussi bien madame le ministre que monsieur le président de la Fédération Togolaise de football, le colonel Akpovi. Mm-hmm. Mais tous les jours que Dieu fait, c'est ce qu'ils veulent faire. Maintenant, vous savez également que c'est une question d'organisation, mais aussi et surtout de moyens. Mm-hmm. Vous vous rappelez que on a entre-temps décrété, si vous voulez, décidé donc d'aller au football professionnel, mm-hmm, à la professionnalisation. Mais il y a de cela quelques semaines, mais on a encore mis ça en veilleuse pour le moment, parce que les ingrédients ne sont pas prêts pour qu'on aille réellement à cette professionnalisation-là. Nous sommes d'accord.
Merci.
Alors donc, juste pour dire que le football doit se pratiquer d'abord à la base.
À la base. Merci. Deuxième question, l'affaire Ousmane Bodé. Si le Togo a gagné la dernière fois dimanche là, est-ce que c'est finalement que quelqu'un a payé ce que réclamait l'ami Bodé?
À ma connaissance, personne n'a jamais rien payé à Mustapha Bodé.
C'est plutôt ça... Mustapha, pas Ousmane, comme non, l'ami l'a dit.
C'est bien sûr, okay, Mustapha Bodé. Je rappelle que ce qu'il réclame, c'est par rapport à ce qu'il estime être, disons, que ce qui devait lui revenir par rapport à la Coupe du Monde
2006,
où il estime que si les joueurs prennent 50 millions, lui, en tant qu'intendant à l'époque, il avait droit à la moitié. C'est ce qu'il réclamait. C'est ça, les 25 millions qu'il réclamait. Donc, à part ça, bon, maintenant, vous savez, on a trop spéculé par rapport à cette histoire de Mustapha Fabodé. Bon, maintenant, je sais quand même que personne n'a versé aucun franc, mais les deux ont gagné hier.
Merci beaucoup. Professeur Kossi Adjonou, le lundi s'ouvre le salon de la valorisation des résultats de la recherche de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Vous nous en avez parlé, nous vous remercions. Un petit mot pour nous rappeler en même temps conclu.
Alors, pour rappeler, c'est que le salon est ouvert à tous les acteurs du développement socio-économique, aussi bien du Togo que des trois autres pays partenaires. C'est libre. Ça sera surtout l'occasion de venir découvrir ce qui est en train d'être fait dans le domaine de la recherche et de pouvoir nouer des partenariats, d'échanger, d'exposer les problèmes que les gens rencontrent, les problèmes qui freinent au fait leur développement. Que ces problèmes peuvent être exposés aux chercheurs et on va discuter ensemble de voir quelles peuvent être les solutions qu'on peut apporter pour améliorer les moyens, les capacités de recherche, d'innovation, de création, pour pouvoir mieux contribuer au développement du pays.
Donc, trois jours d'intense activité entre les enseignants, entre les chercheurs et innovateurs, le monde de l'entreprise, tous les curieux, ce sera au CETEF.
C'est au CETEF, du 18, 19 et le 20 de ce mois, septembre, et tout le monde est invité.
Merci beaucoup.
Merci.
Sam Djobo, une minute pour un dernier commentaire assorti d'un carton.
Oui, par rapport au commentaire, je voulais appuyer ce que l'auditeur Philippe, qui parlait de l'eau dans leur quartier, à Gouet-Belgique, pour dire que le problème d'eau, même dans la capitale togolaise, c'est un problème récurrent. Vous allez voir, moi j'habite pas trop loin d'un château d'eau, mais il y a des heures auxquelles je n'ai pas l'eau à la maison. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est en cela qu'on saluait entre-temps l'arrivée du ministre, du général Yark au ministère de l'eau, pour dire qu'il va imprimer un nouveau dynamisme et apporter la rigueur qu'on l'a connue pour que les choses puissent effectivement marcher. Or, parfois, des châteaux qui sont en panne, des châteaux, il faut aussi une nouvelle vision, celle qui consiste à initier ou à construire un gros barrage pour que tout le pays soit desservi en eau potable.
D'autant plus que le gouvernement même nourrit l'ambition de, d'alimenter tous les Togolais en eau potable à concurrence de 85% au moins d'ici 2030.
Oui.
Et c'est dans moins de 7 ans.
C'est pour bientôt. Et donc avec les châteaux d'eau, là, ça ne marche pas.
Eh bien, un carton.
Alors, un carton, j'aurai deux cartons. Et les deux cartons sont verts. D'abord, un carton vert chlorophylle. Au parti unir parce que à la veille de la rentrée on voit des lots de fournitures qui sont en train d'être acheminés dans les localités du pays histoire d'appuyer les couches les plus vulnérables pour une rentrée réussie. Le second carton qui est vert mais pas chlorophylle, il va à un ami, un frère, Baki Alizati, qui est le DG de la société Koliba, qui a fait don de fournitures scolaires à 1500 élèves dans la préfecture de Tchadjo. Donc, c'est mes deux cartons du jour.
Merci. Nos comments pour les cartons. Aimez le bon, une minute pour, des cartes, pour un commentaire avec pourquoi pas un carton.
Bon, pour les cartons, je n'en ai pas, comme d'habitude. Hein. Mais juste pour dire que pour le football, il faut en tout cas que nous essayions à chaque fois que l'occasion nous est donnée d'apporter notre soutien aux équipes nationales. Le problème est là. Vous savez que le dimanche dernier, les gens étaient surpris de voir un tel public malgré l'élimination du Togo. Ça veut dire que les gens ont soif de quelque chose. Et cette soif a été comblée à la fin, quand le Togo a gagné 3-2. Les gens ont refusé de quitter le stade. Les gens ont pratiquement refusé de quitter le stade. À un moment donné, on a fait semblant d'éteindre les lumières. Pour quelques 2-3 minutes, on l'a encore ramené. Mais les gens étaient toujours au stade. Alors, c'est la preuve que les gens ont soif de quelque chose. Donc, il faut faire en sorte que le football évolue dans notre pays.
Je suis heureux d'avoir animé cette émission avec vous, professeur Adjonou. Je Merci. Souhaite plein succès à vos travaux au salon la semaine prochaine.
Merci.
Le plaisir de vous retrouver très bientôt. Hein. Toi, Aimé, toi, Sam, Teterou, Djobo, ceux qui viendront demain, ceux qui défilent tous les jours. Et surtout, notre gratitude, c'est aux auditeurs qui nous écoutent et qui co-animent avec nous. C'est tellement fort que même quand Dame ici. Elle ne veut plus appeler, elle appelle toujours. C'est ça l'esprit du Club de la Presse. Rendez-vous demain, mercredi à 11h.
Canal FM.
Seul ou bien en dos, je te chanterai sur mon piano. Je te dirai des mots d'amour, t'avouer que je t'aimerai toujours. Tu resteras mon seul amour, quoi qu'il se passe aux alentours. Tous mes rêves tombent à l'eau. Tu es bien la seule qui m'ait fait planer là-haut. C'était un rêve, c'était trop beau. Chérie, je t'ai encore dans la peau. Je t'écris ces quelques mots pour te dire que je reviens bientôt.